Salut à tous, ici Antoine Fraisse-Soulier. Vous êtes sur le podcast d'eToro. Il s'agit du podcast L'Hebdo des marchés. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du fameux économiste Marc Toiti. Nous sommes tous les deux ici pour décortiquer et analyser les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors, installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti.
Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, podcast sponsorisé par eToro. Nous sommes le lundi 22 avril et cette semaine, j'ai l'honneur de co-animer ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc.
Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous.
Alors, cette semaine, encore une semaine avec beaucoup d'actualité, beaucoup de volatilité aussi sur les marchés. On l'a vu notamment sur les valeur technologique américaine, hein, le Nasdaq a perdu 5% la semaine dernière. Donc, on avait parlé cette correction, hein, d'ailleurs, avec Marc. Elle devait arriver après 5 mois de hausse ininterrompue. On dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et justement, c'est ce qui se passe actuellement. On a un petit retour en arrière des marchés, rien de bien inquiétant, mais toutefois de la volatilité. Ceci étant, du côté économique, on a plutôt des bonnes nouvelles, finalement, hein, puisque le FMI a donné ses prévisions. Alors, ça dépend des zones géographiques, hein, tu vas en parler, mais effectivement, c'est le FMI a rehaussé de 0,1 point sa perspective pour la croissance mondiale en 2024.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, on a une situation où, bon, le FMI, bon, on sait, c'est pas un modèle de bonnes prévisions. Hein, c'est-à-dire que généralement, c'est un peu comme la cavalerie, il arrive après la bataille. Donc, quand il révise à la hausse ses prévisions, ça veut dire que c'est en train de baisser. Mais bon, néanmoins, c'est quand même un jalon important. Mais le plus important dans ses prévisions, c'est que, donc, il a révisé à la hausse sa prévision de croissance mondiale. On en parlait il y a quelques semaines. Hein, moi aussi, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'on a révisé à 3% au niveau mondial. Le FMI, donc, ils étaient à 3,1, ils sont à 3,2. Je rappelle que la croissance annuelle moyenne du monde, hors inflation, bien sûr, depuis les années 80, c'est 3,5%. Donc là, même si on est à 3,2, on est un petit peu en deçà de la moyenne. Alors, dans les révisions haussières, il y a un petit peu l'Inde, hein, on est à quasiment 7% de croissance. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait même faire plus, hein, sur l'Inde, peut-être pas 8%. Et puis également les États-Unis, où donc le FMI annonce 2,7% de croissance. C'est vrai que c'est assez soutenu. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est ce qui a un petit peu fait peur au marché, parce que le FMI dit, bon, maintenant, il y a presque une surchauffe aux États-Unis. Donc, il y a une politique budgétaire toujours très accommodante et une politique monétaire, effectivement, beaucoup tablée sur une baisse des taux d'intérêt. Et on l'évoquait ici même, hein, avec eToro notamment, depuis déjà plusieurs mois. On a dit, attention, les taux d'intérêt ne vont pas très fortement baisser sur la réserve fédérale parce qu'il y a de l'inflation. Et donc, c'est exactement ce que vient de dire le FMI. Il y a de l'inflation et il y a une croissance qui est soutenue. Il y a le plein emploi également qui se maintient. Les salaires qui augmentent de plus de 4% par an, toujours aux États-Unis. Donc, ça, c'est plutôt bon. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de forte baisse des taux d'intérêt, on va en reparler après, mais ça, c'est quand même un premier point important pour le FMI. Après, deuxième point important, au contraire de ce qui se passe donc, aux États-Unis, le FMI a révisé à la baisse sa prévision sur la zone euro, et en particulier sur la France, où alors à la base, le FMI voyait plus de 1% de croissance, après il a révisé à 0,9, maintenant il est à 0,7% de croissance. Je crois même qu'à la base, il faisait 1,4% de croissance, il a annoncé pour 2024 pour la France. Donc là, on n'est plus qu'à 0,7, donc c'est exactement, quasiment la prévision que je fais depuis plusieurs mois, autour des 0,6% de croissance pour la France, en moyenne dans la zone euro, autour des 0,8% de croissance. Donc on a bien ce delta, hein, si tu veux, entre d'un côté les États-Unis qui résistent bien, puis la zone euro qui souffre. Et donc, conséquence logique, l'euro a tendance à baisser. Et donc là, c'est vrai que la Banque Centrale Européenne, elle est prise à son propre piège. Parce que comme la Réserve fédérale ne va pas baisser les taux d'intérêt, si la BCE le fait, parce qu'elle doit le faire, hein, on n'a pas beaucoup d'inflation pour l'instant, on a également une stagnation économique ou une quasi-stagnation économique, donc la BCE, elle doit baisser les taux d'intérêt. Mais si elle le fait, avant la réserve fédérale, donc l'euro qui a déjà baissé, il va encore baisser. Je rappelle que le taux monétaire aux États-Unis, il est à 5,50, 5,5%. Dans la zone euro, il est à 4,5%. Donc il y a déjà ce qu'on appelle un spread de taux, un écart de taux monétaire à l'avantage du dollar. C'est pourquoi le dollar s'est apprécié ces derniers jours. Et parallèlement, si la BCE baisse les taux d'intérêt alors que la Fed ne le fait pas, l'écart de taux va encore s'élargir. Et donc l'euro va encore baisser. Le problème, c'est que si l'euro baisse, ça fait augmenter l'inflation importée. Et donc, si l'inflation importée augmente, l'inflation globale augmente, et donc ça alimente la récession. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la BCE est prise à son propre piège. Elle va baisser les taux d'intérêt, mais pas beaucoup, parce que sinon, ça va casser effectivement encore l'euro. Et on voit bien cette situation où, malheureusement, la zone euro, ça fait déjà 15 ans que ça dure, eh bien, elle n'arrive pas, je dirais, à recoller au peloton, à avoir une croissance forte comme aux États-Unis. Donc, l'écart de croissance se maintient à l'avantage de l'oncle Sam, ce qui casse évidemment, la croissance, et c'est bien sûr dangereux aussi pour la zone euro. Petit dernier point sur le FMI, elle révise, donc le FMI révise à la hausse ses prévisions sur la Russie, donc là qui reste sur une croissance forte, alors bien sûr il y a l'effort de guerre, etc. Et puis par contre, il est un petit peu pessimiste sur la Chine. Il est autour des 4,6% de croissance. Et là, moi, je pense qu'il pêche justement par excès de pessimisme, parce qu'on a eu les derniers chiffres des directeurs d'achat en Chine. La croissance chinoise, bon, ce n'est pas l'euphorie. Et je pense que ce sera plutôt autour des 5 à 5,5, alors que le FMI est à 4,6. Donc, ce qui veut dire que, bon, même si la Chine, elle souffre, on l'a souvent évoqué ici même, comme elle a énormément de réserves de change, plus de 3 000 milliards de dollars de réserves de change, hein, 3 200 milliards exactement, donc elle a les moyens, effectivement, de relancer la machine. Donc, il ne faut pas trop enterrer trop vite la Chine. Donc moi je pense que le FMI il est un petit peu trop pessimiste sur l'Inde, hein, c'est-à-dire que l'Inde il voit que 6,8, je pense qu'il peut faire 7,5 voire 8. La Chine elle va plutôt autour des 5,5 et le Royaume-Uni également, le FMI voit 0,5, je pense qu'ils seront autour des 1%. Par contre malheureusement c'est vrai que sur la zone euro, bon bah là je suis d'accord avec le FMI, ça sera sur une croissance extrêmement faible malheureusement. Et donc la France, l'Allemagne, la zone euro, le
Oui.
Canada également, l'Afrique du Sud aussi. Nous restons les lanternes rouges, malheureusement, de la croissance mondiale.
L'Allemagne, oui, est prévue lanterne rouge de la zone euro à 0,2% hein, par le FMI.
Tout
Et
à fait.
les États-Unis, donc, on a un rehaussement hein, de la part du FMI de 1,2, donc, pour les passer la croissance à 2,7%.
Ouais, 2,7. Alors, là, tu
2,7.
parles des prévisions, là, tu parles des
Voilà.
prévisions qu'ils avaient faites il y a un an. Et entre-temps, au mois de janvier, le FMI avait révisé déjà ses prévisions, tu vois.
Oui,
Et
d'accord.
donc là, effectivement, il est rehausse en permanence. Mais par rapport au mois de janvier, ils étaient à 2,2. Donc là, on est à 2,7, il n'y a que
On a
0,5 points
2,7.
d'écart.
Voilà.
Mais bon, on voit que par rapport à il y a un an, les premières prévisions pour 2024 du FMI, il s'est, enfin, entre guillemets, sans être méchant, hein, s'est complètement planté. C'est-à-dire qu'il était très euphorique sur la zone euro. Là, il est à la baisse ou sur la France. Et puis, il était très inquiet sur les États-Unis. Et maintenant, il voit qu'effectivement, c'est plutôt bon. Donc voilà. Donc bon, encore une fois, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il arrive après la bataille.
Après
Mais
la
bon,
bataille.
ce n'est pas grave. Il confirme un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui un petit peu dans le monde.
Alors justement, ce qui se passe dans le monde, notamment les tensions géopolitiques, les incertitudes hein, sur le calendrier des baisses de taux aux États-Unis, parce que tu en parlais, la BCE doit avoir une fenêtre de tir au mois de juin. La Fed, c'est plus du tout sûr, hein, plus du tout certain qu'elle baisse ses taux en 2024. Et donc, du coup, ça crée une remontée des taux directeurs, des taux à 10 ans aux États-Unis. Donc, on a vu taux à 10 ans qui est remonté à 4,70 quasiment, 4,65. En France, on est remonté à 3%. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
Oui, ça c'est vraiment le. J'ai envie de dire, il y a deux grands dangers pour ce début d'année, au-delà effectivement de cette croissance molle dans la zone euro et en France. C'est l'euro qui baisse, et il va encore baisser. On en reparlera, je pense, mais c'est vrai que l'euro va continuer de baisser. Et puis effectivement, ces taux d'intérêt. Et tu l'as bien dit, la tension sur les taux, donc les taux d'intérêt des obligations d'État, elle est même encore plus forte en France. Alors je vais revenir sur la France, mais un petit détour par les États-Unis, effectivement, la Fed aujourd'hui, moi je pense qu'elle pourra baisser une fois quand même de point de vue symbolique ces taux d'intérêt, parce qu'on est quand même à 5,50, hein, c'est des taux d'intérêt quand même très élevés, pour dire voilà, alors bien sûr ça dépendra également du contexte géopolitique, c'est clair que si ça dérape voilà, au niveau mondial, voilà, elle pourra baisser les taux. Si c'est pas le cas, on l'espère, bien sûr qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale ou autre, hein, qu'il y aura pas de, qu'on est pour la paix. Bien entendu, à ce moment-là, il y aura, je dirais, les taux d'intérêt ne baisseront pas beaucoup. Et donc, les taux longs, mécaniquement, qui avaient plutôt eu tendance à baisser, ben là, ils remontent, sachant qu'ils sont toujours sous les taux d'intérêt monétaire. Il y a toujours une inversion de la courbe des taux, parce que même à 4,70 sur le taux 10 ans, comme on a un taux monétaire à 5,50, il y a toujours ces taux longs qui sont inférieurs au taux court, ce qui est normalement, donc c'est l'inverse, hein. Donc on a bien une situation anormale, entre guillemets, et parallèlement, il y a un élément important, c'est que la dette publique américaine elle continue d'augmenter. Et donc là aussi, ben, ça crée des craintes, même si ce sont les États-Unis. Et donc ce qui fait que les taux longs, attention, ils vont rester élevés, là ça peut un petit peu casser l'activité économique. Mais il y a encore plus grave. C'est ce qui se passe chez nous, malheureusement. Quand je dis chez nous, c'est en France en particulier, où effectivement, les taux d'intérêt augmentent encore plus. On est à 3%. Et donc, je te rappelle un truc très important, c'est que enfin, un truc, bon, on est entre nous, hein, mais on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai que voilà, on se connaît tellement bien qu'on peut y aller.
Oui,
Hein.
on peut.
On a effectivement donc une charge d'intérêt de la dette en France qui est d'environ 50 milliards d'euros chaque année, et on va bientôt passer à 75 milliards
Oui.
d'euros. Mais ça, c'était les prévisions de Bercy, si les taux d'intérêt n'augmentaient pas. Les taux d'intérêt des obligations d'État. Or là, ils repartent à la hausse. On est à 3%, et donc ça va coûter extrêmement cher. Et là, évidemment, il y a, je dirais, l'épée de Damoclès des agences de notation. Ce vendredi, le 26, il y a le Fitch et le Moody's qui devraient annoncer la notation. Alors des fois, il y a un petit peu de décalage. Hein. Ils donnent une date et puis finalement, ça prend un peu de temps. Fin mai, ce sera Standard & Poor's. Si Moody's et Standard & Poor's dégradent avec une perspective négative, alors là, ça peut faire mal. Là, les taux d'intérêt peuvent remonter à 3,50 sur le taux 10 ans. Hein. Et donc, ça va encore casser l'activité économique, alourdir la charge d'intérêt de la dette. Donc là, on se rend bien compte on a joué avec le feu en France, avec cette dette publique. Je n'ai pas arrêté de le dire à tout le monde, à Bruno Le Maire, etc. Et aux médias et autres. Hein. Et malheureusement, aujourd'hui, on le voit que c'est en train de devenir très dangereux. On a joué avec le feu, ben on se brûle. Et donc ça, c'est un vrai danger pour les perspectives, c'est-à-dire que on risque d'avoir encore des taux longs qui augmentent. Et donc, si les taux longs augmentent, c'est-à-dire des investissements qui baissent, moins de consommation. Secteur de l'immobilier également, tout le monde dit ça y est, la crise est terminée. Bon, c'est vrai que les prix ont baissé de 15% sur l'immobilier à Paris, par exemple, hein, par rapport au plus haut, mais c'est peut-être pas terminé si les taux repartent à la hausse.
Oui,
Et
c'est
je
ça.
regardais justement les taux d'intérêt hypothécaires, enfin donc sur les crédits immobiliers en France, eh bien, ça arrête de baisser. Ça a baissé un petit peu en début d'année, et là, ça ne baisse plus. Donc si effectivement les taux remontent, les taux longs remontent, même si la BCE baisse un petit peu ses taux monétaires, eh bien les taux d'intérêt de crédit vont rester élevés. Donc ça va encore casser le secteur de l'immobilier. Donc il faut être très très prudent, et je pense que malheureusement, encore une fois, comme on l'évoquait tout à l'heure, hein, la France est un petit peu je dirais, le parent pauvre en termes d'activité économique et surtout en termes de dette publique, parce que beaucoup de pays de la zone euro ont fait des efforts. Et donc nous, aujourd'hui, malheureusement, on mérite cette sanction. Est-ce que les agences de notation vont attendre ou pas les Jeux olympiques? C'est vrai que tout le monde leur demande pas de vague avant les Jeux olympiques. Bon, peut-être, on verra bien, mais
On verra, ça
globalement, c'est
s'approche
sûr
d'ailleurs, les
que...
Jeux Olympiques, hein, c'est
Oui, ça
plus
se
que dans deux
rapproche, mais
mois,
c'est
ça
sûr
sera.
que ce n'est pas un argument. C'est-à-dire que
Non, pas
si
du
aujourd'hui
tout.
on veut être crédible, la France aurait dû être déjà dégradée depuis très longtemps. Alors c'est vrai que jusqu'à encore quelques semaines, on n'avait pas les chiffres du déficit public de 2023. Maintenant, on les a, 5,5% du PIB. C'est le seul pays de la zone euro qui a augmenté aussi fortement son déficit public l'année dernière. Donc,
Oui,
c'est exactement
voilà.
à l'opposé de ce qu'avait promis le gouvernement français. Donc ça peut coûter cher sur les taux obligataires français. Et même si on n'est pas dégradé cette semaine, ça sera inévitable, ça arrivera certainement avant l'été ou alors à la rentrée au plus tard. Voilà. Mais encore une fois, si aujourd'hui j'étais une agence de notation, je dois faire mon métier, hein. Je ne dois pas regarder les Jeux Olympiques, etc. Je dois faire mon métier et on doit encore une fois sanctionner.
Alors justement, on parlait des taux d'intérêt finalement qui ont augmenté cette semaine et donc qui ont provoqué aussi une certaine tension sur les marchés financiers. Alors parfois, bourse et économie ne riment pas forcément ensemble puisque on peut dire la semaine dernière, la France a été le seul marché à tenir bon, à tenir bon. Il est resté flat là où le Nasdaq a perdu 5%, je le disais. Le Dow Jones a perdu aussi 1,5%. Le DAX aussi en Allemagne a perdu du terrain, grâce notamment, eh bien, puisqu'on a ouvert le bal des publications de résultats, on a LVMH qui a publié la semaine dernière, L'Oréal aussi, avec L'Oréal qui a publié plutôt des résultats plutôt solides, hein, et le titre d'ailleurs s'est envolé. Et donc on voit aussi que si les résultats sont en ligne avec les attentes et non plus supérieurs aux attentes, on peut avoir des sociétés qui progressent fortement. Ça rassure les investisseurs. C'est vrai qu'on a quelques craintes sur les résultats. Et d'ailleurs, cette semaine, on a 21 publications du CAC 40, 21 sociétés du CAC 40 qui publient. Donc, c'est vraiment le pic. On en parlera, bien sûr, la semaine prochaine. Voilà. Maintenant, la correction est enclenchée, toutefois, sur les marchés financiers. Et à voir maintenant si eh bien, ça va plus bas. Aussi, on est suspendu aussi aux nouvelles géopolitiques. Donc pour l'instant, ça semble se calmer. Le pétrole reflue également après une forte poussée. Mais on pourrait quand même voilà, avoir une poursuite de la correction, sachant qu'en plus, on arrive au mois de mai et on dit le fameux sell in May, go away. Donc la saisonnalité n'est pas forcément très porteuse pour les marchés.
Non, c'est sûr. Alors, Encore une fois, rappelons qu'on part du sommet
Voilà.
historique, hein, donc
Tout à
forcément, on
fait.
a besoin de prendre, d'avoir cette correction qu'on avait d'ailleurs annoncée ici même. Elle est là. C'est vrai que sur le CAC 40, bon, il y a toujours ce prisme du luxe, évidemment, donc des bons résultats, enfin, des résultats corrects au niveau du luxe pour l'instant, ce n'est pas l'euphorie, mais ça résiste bien. Et puis, vous savez, quand le FMI annonce des bonnes prévisions pour le monde émergent, notamment, eh bien, ça fait plaisir au luxe, parce que le luxe, il compte beaucoup justement sur le monde émergent, où là, évidemment, il y a encore un sous-équipement en termes de luxe, et on sait que dans le monde émergent, eh bien, tous ceux qui réussissent dans la vie, ben, ils ont envie de le montrer. Donc, leur première chose, qui est une des premières, je dirais, évolutions qu'ils font, c'est d'acheter effectivement du luxe, donc c'est ce qui porte le secteur du luxe grâce au monde émergent. Donc ça, encore une fois, c'est ce qui veut dire que les résultats vont être bons, mais après, dans le détail, attention, il y a quand même une situation un petit peu compliquée aujourd'hui où les coûts augmentent, les chiffres d'affaires sont en train de baisser quand même pour l'ensemble des entreprises, donc il faut quand même rester prudent. Et puis surtout, il y a ces taux d'intérêt. Moi, je pense que ça, c'est la clé, hein, dans une situation qui est quand même un petit peu compliquée, surtout d'intérêt qui vont donc rester élevés. Donc moi, je pense que l'apaisement, il doit durer, il doit se poursuivre pour éviter justement d'aller trop loin. Donc, c'est ce qui fait qu'on va avoir cet ajustement qui va perdurer, mais néanmoins, on aura une situation où on risque de garder, je dirais, une bonne santé quand même des marchés boursiers. Il y aura régulièrement des phases de prise de bénéfices, mais je pense que les plus hauts qu'on a atteints avant ce dégonflement de bulle, ça restera quand même les plus hauts de l'année. Donc, quand même, soyons prudents, il y
D'accord.
aura beaucoup de phases d'aller-retour à faire, une forte volatilité, mais pas non plus de miracle à attendre.
D'accord, bah écoute, on suivra ça avec grand intérêt. On le
On sera
commentera
là
plus
d'ailleurs pour ça, bien
tard,
entendu.
bien évidemment. Juste à noter que donc jeudi prochain, jeudi 2 mai, nous allons donc réaliser un webinaire sur une revue trimestrielle et
Oui.
perspectives. On
Ah bah oui,
l'annonce,
avec plaisir.
voilà, on l'annonce, perspectives pour le reste de l'année.
Alors on fera un point sur un petit peu le début de l'année, puis surtout les perspectives. Est-ce
Voilà.
qu'on conforte ce qu'on avait dit en début d'année? Il y aura également évidemment pas mal de slides qu'on va vous présenter, donc avec des graphiques que vous aurez bien entendu pour ceux qui le souhaitent.
Voilà, bon, merci Marc, merci pour tes
Merci Antoine,
éclairages.
merci à toutes et à tous, bonne
Merci.
continuation. Et puis
Bonne
bon, voilà,
continuation.
il faut garder le moral malgré tout.
Oui, et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt.
Bye.
Vous venez d'écouter Digest et Invest, le podcast d'eToro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur eToro.com.